enregistrement en marche. Voilà, c'est parti. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, je vais te demander de lire, s'il vous plaît, c'est Benoît.
Oui.
Alors, si tu veux lire, s'il vous plaît.
Là, j'envoie juste une petite partie.
Ah, tu vois pas tout?
Non.
Ben, lis à partir de ton livre.
Oui.
Ben oui.
Bon,
Parce que là, on va lire le mantra au complet. En tout cas, on va en lire une partie.
verset. Bon, le mantra, c'est la partie. Ok, le
Verset
mantra.
1,
Ok.
verset 1.
Verset. Ok, l'être sobre, c'est bien ça. L'être sobre, capable de résister aux
Non,
tentations de
non,
la
non,
tête.
non, non. Attends une minute. Lis tout. Lis le sanskrit. Lis le mot à mot parce que c'est bien
Oh.
important.
Vajo Vigam Manasa Kroda Vigam Jiva Vigam Udaro Pasta Vigam Etan Vigam Yo Visha Eta Ira Sarvam Apimam Purtivim Sa Chisya Vacha de la parole Vegam, sollicitation, Manasa, du mental, Kroda, de la colère, Vegam, pulsion, Jiva, de la langue, Vegam, sollicitation, Udara, opasta, de l'estomac et des organes génitaux, Vegam, pulsion, Etan, c'est, Vegam, sollicitation, Yé, quiconque, Vishaheta, peut tolérer, Dira, sobre, Sarvam, entier, Api, certes, Imam, ce, Purtivim, monde, Cha, celui-là, Chisha, Chishya, peut accepter des disciples. L'être sobre, capable de résister aux tentations de la parole, aux sollicitations du mental, aux incitations à la colère et aux pulsions de la langue, de l'estomac et des organes génitaux, est qualifié pour accepter des disciples par toute la terre. Dans le Srimad-Bhagavatam, Maharaja Parikshit soumet un certain nombre de questions pertinentes à la Srila Shukadeva Goswami, parmi lesquels, pourquoi ceux qui ne peuvent maîtriser leur sens tentent-ils d'expier leurs fautes? Prenons par exemple un voleur qui, même s'il sait fort bien qu'il peut être arrêté pour ses vols, et même s'il y a eu un autre voleur appréhendé par la police, continuera cependant à voler. On acquiert de l'expérience par l'écoute et par la vue. Une intelligence moindre l'acquérera par la vue, une intelligence plus développée par l'écoute. Ainsi, lorsqu'un homme doué d'intelligence apprend des livres de loi et des textes révélés, Shastra, que voler est un crime et que tout malfaiteur qui se fait prendre sera arrêté et châtié, il s'abstient de le faire. Mais l'homme d'intelligence moindre devra d'abord subir arrestation et punition avant de comprendre qu'il ne faut pas voler. Quant à la crapule, il continuera ses crimes même après avoir vu et entendu et même après avoir été puni. Châtié par l'État, ayant ainsi expié ses fautes, un homme de ce genre récidive dès sa sortie de prison. Si l'emprisonnement doit permettre au voleur de racheter ses fautes, mais qu'il reprend une fois libre ses activités malfaisantes, quelle peut être la valeur de son expiation? Telle est la question de Maharaja Parikshit, rapportée dans le Srimad Bhagavatam 6.1.9-10. On continue?
Oui, continue.
Drishta Shrutupayam Yat Patam. Janam Api Atmano Itam Karoti Buyo Vivasha. Prayashi Tam Atokatam. Vachan Vachan Nivatate Badra. Vachi Karatita Puna. Prayashitam Atopartam Manye Kunjara Shochava. Il compare ce genre d'expiation au bain des éléphants. L'éléphant peut prendre un bon bain dans la rivière, mais sitôt sur la berge, il se couvre à nouveau de poussière. Que lui vaut alors de s'être si soigneusement baigné? Pareillement, de nombreux spiritualistes chantent le Mahamantra Hare Krishna tout en se livrant à des actes défendus, pensant que le chant neutralisera leur faute. Parmi les 10 offenses pouvant être commises au cours du chant des cinq noms du Seigneur, celles qui consistent à commettre sciemment des actes coupables font de croire que le chant du Mahamantra en effacera les conséquences porte le nom de Namno Balad Yashya Hi Papa Bodhi. Ainsi, certains chrétiens vont à l'église se confesser leurs péchés et moyennant quelques pénitences, pensant obtenir l'absolution de leur faute. Mais dès la semaine suivante, ils reprennent leurs activités coupables en attendant le pardon du week-end prochain. Dans ces versets du Srimad Bhagavatam, le roi Parikshit, le roi le plus intelligent de son époque, condamne une telle expiation. Shukadeva Goswami, doué lui aussi d'une intelligence remarquable et digne d'être le maître spirituel de Maharaja Parikshit, répondit au roi en confirmant le bien fondé de ses dires, car un acte coupable ne peut être neutralisé par un acte vertueux. Le véritable rachat de nos fautes, Prayashita s'effectue en revivant notre conscience de Krishna, maintenant assoupie. La véritable expiation est une implique de parvenir à la connaissance parfaite, et pour cela, il existe une méthode établie. Lorsque l'on suit les bonnes règles d'hygiène, on ne tombe pas malade. De même, l'être humain doit être formé selon certains principes de vie afin de réviver sa conscience originelle. Mener une vie ainsi réglée constitue ce qu'on appelle l'austérité, tapasya. On peut graduellement s'élever au niveau du savoir véritable, de la conscience de Krishna, par la pratique de l'austérité et de la continence, brahmacharya, par la maîtrise du mental et des sens, par le don de ses biens en charité, en évitant avec soin toute duplicité, en restant propre, et par la pratique de yoga asana. Toutefois, celui qui aura l'heureuse fortune de bénéficier de la compagnie d'un pur dévot, d'un maître spirituel authentique, et sous sa direction d'observer les principes régulateurs de la conscience de Krishna, s'abstenir de tout rapport sexuel illicite, ne pas manger de viande, ne pas faire usage d'aucune substance enivrante, et rejeter tout jeu de hasard, tout en s'engageant dans le service du Seigneur suprême, pourra facilement atteindre le même but sans devoir se soumettre à toutes les pratiques de vie logiques visant à maîtriser le mental. C'est cette méthode fort simple que recommande Srila Rupa Goswami. Il s'agit tout d'abord de maîtriser nos paroles. Chacun possède le pouvoir de parler. Donc, il se hâte d'user dès que se présente l'occasion. Que nos dires ne se rapportent pas à la conscience de Krishna et 1000 sottises sortiront alors de notre bouche. Le crapaud des temps, des chants s'exprime en coassant. De même, tout homme qui a une langue de parler fuse pour dire des inepties. La partie écrit, le crapaud ne fait que convier le serpent. S'il te plaît, viens me manger. Bien qu'il appelle ainsi sa propre mort, rien ne peut l'empêcher de poursuivre sont tapage. Les paroles des matérialistes et des philosophes impersonnalistes sont semblables au croassement de ces crapauds. Ils préfèrent sans cesse des inepties et invitent donc la mort à les emporter. Maîtriser nos paroles, cependant, ne signifie pas s'imposer le silence, non, comme le croient les philosophes impersonnalistes. La pratique du silence peut apporter une aide temporaire, mais se traduirait finalement par un échec. Pour réaliser la maîtrise de la parole telle que l'entend Sri Rupa Goswami, il faut plutôt adopter la voie positive de la Krishna Katha. Cette voie consiste à utiliser nos paroles pour la glorification du Seigneur suprême, Sri Krishna, et à se servir de notre langue pour glorifier son nom, ses traits personnels, ses qualités et ses divertissements. Le prédicateur des gloires de Krishna se situe toujours hors d'atteinte de serre de la mort. Voilà ce que signifie résister aux tentations de la parole. La fébrilité ou inconstance du mental, mano-véga, peut être dominée lorsque nous fixons notre esprit sur les pieds pareils au lotus de Krishna. Le Chaitanya Charitamrita, Madhya 22.31, enseigne à cet effet. Krishna, Surya, Sama, Maya, Haya, Andakara, Yahan, Krishna, Tahan, Mahi, Mayara, Adhikara. Krishna est pareil au soleil et Maya aux ténèbres. Là où brille le soleil, il ne saurait y avoir d'obscurité. De même, dès que l'on adopte la conscience de Krishna, les ténèbres de l'illusion, l'influence de l'énergie externe, se dissipent aussitôt. La technique de yoga qui vise à nier toute pensée matérielle ne s'arrête ici d'aucune aide. Le vide créé dans le mental ne peut être qu'artificiel et ne tardera pas à se combler. Cependant, si l'on absorbe toujours cette pensée en Krishna, méditant sur le moyen de mieux le servir, tout naturellement, le mental sera maîtrisé.
Jai, merci beaucoup. Hare Krishna. Om Gyanati Mirandasya Garanjana Salakaya Chakshurun Yena Tasmai Shri Gurave. Alors, les gens s'est joints à nous pendant la lecture. Alors,
Allez, vol.
allez bon les gens.
Ça va bien.
Ça va bien? Good. Alors, on a commencé le cours à 7 heures. Alors voilà, c'est assez intense. La version du livre que j'ai ici est différente du livre que tu as, Benoît.
OK.
Ils ont amélioré, si tu veux, la traduction dans l'édition que tu as. Celle que j'ai, ben, ça matche pas à 100%. Mais le message est là, là. Alors, voilà, c'est ça qui est ça. Alors, ce premier mantra, Om Gyanati Mirandasya Garanjana Sanakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri le Prabhupada Ki Jai. Alors, ce premier mantra, de 2 minutes, je suis en train d'enregistrer maintenant. Bon, ok, ça va. Alors, le titre du cours qu'on a mis sur Internet, on a dit la maîtrise des sens. Et Krishna, dans la Bhagavad Gita, dit que dans le chapitre 15, que tous les êtres dans ce monde matériel luttent avec les sens, ce qui inclut le mental. Alors, si quelqu'un dit, par exemple, c'est quelqu'un qui est nouveau avec la conscience de Krishna, mettons vraiment quelqu'un qui découvre la conscience de Krishna, le sujet de maîtrise des sens, c'est plus ou moins pratiquement pas pertinent pour le moment. Parce que les sens sont comblés par la nouveauté des différents aspects de la conscience de Krishna. Alors, plus quelqu'un s'intéresse à la conscience de Krishna, ben, une des premières choses qu'il va constater, c'est le prachad. Jusqu'à quel point le prachadam est bon comparé à une nourriture qui n'est pas offerte à Krishna. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, entendre parler de Krishna. Donc, quelqu'un vient à la conscience de Krishna par la grâce d'un dévot en quelque part qui s'occupe de lui ou d'elle et qui lui enseigne la conscience de Krishna. N'est-ce pas le cas? Il y a un dévot en quelque part qui doit donner la conscience de Krishna à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le mouvement de ISKCON, c'est ça. C'est avoir la conscience de Krishna pour soi-même, mais la partager avec d'autres. Alors, sur cette base-là, le mouvement pour la conscience de Krishna se répand. Parce qu'il y a des dévots qui parlent de Krishna à d'autres, soit des amis, soit durant des activités qu'on appelle de prédication, qui peuvent être à des professeurs d'école, à des scientifiques même. Il n'y a pas de... Comment on peut dire? Il n'y a aucun obstacle, disons, qui peut justifier qu'une personne n'est pas éligible pour entendre parler de Krishna. Alors, tout le monde peut être admissible à recevoir la conscience de Krishna quand des dévots prêchent ou des dévots enseignent la conscience de Krishna. Alors, quand j'ai joint le mouvement La conscience de Krishna, c'était en plein hiver, en 1970, et on avait un dévot au temple qui est toujours là, dans le giron, si on peut dire, de ISKCON, de la conscience de Krishna, qui s'appelle Dayalji. Et Dayalji, son service à ce moment-là, c'était d'essayer de trouver des engagements dans les écoles. Alors, il appelait des écoles ou les universités ou des cégeps pour qu'on puisse aller prêcher dans ces endroits-là. Soit dans des écoles, la plupart du temps, ça était dans des cégeps ou des universités. Il y avait toujours comme une... C'était merveilleux, ça. Il y avait toujours une façon de réussir à avoir un engagement. C'était vraiment bien. Alors, on se retrouvait à aller prêcher dans deux, trois, quatre endroits différents par semaine. Et ça, c'était vraiment le fun. Et surtout pour un nouveau comme moi, ça, j'appréciais beaucoup qu'on fasse ça. Et puis ça remplaçait d'aller chanter dehors dans les années 70. Et Dieu sait comment la température n'était pas comme aujourd'hui, rock and roll douce. Dans ce temps-là, c'était assez froid, merci, en degrés Fahrenheit, parce que le système métrique n'était pas encore rentré au Canada. Alors, c'était dans les 0 degrés ou des fois moins 15, moins 20 Fahrenheit. Pas Celsius, là. Fahrenheit, s'il vous plaît, merci. Alors, on allait chanter des fois au Carré Philippe. Et puis, il faisait pas chaud. Alors, c'était pas grave. Disons que même pour Disons, on allait chanter en dôti, mais on gardait un pantalon en dessous du dôti parce qu'il faisait trop froid. Alors, on avait, comment dire, long john, en tout cas des grandes combinaisons, là, le pantalon, et des fois deux pantalons, parce qu'il faisait vraiment froid. On chantait tous les jours sans exception, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige. C'était tous les jours le même horaire. C'était de 11 h le matin jusqu'à 2 h l'après-midi. Et puis l'après-midi, on ressortait vers les 4 h, 4 h à 6 h le soir. Puis on revenait au temple, puis on se douchait, puis on prenait prachad, et puis c'était ça le programme. À tous les jours, on chantait au moins 4 h dans la rue, peu importe la température. Alors, on était à peu près, je sais pas moi, à peine une dizaine de dévots. On faisait ça tous les jours. Et de cette façon-là, on n'était pas tout seul à faire. C'était le mouvement qui était comme ça. L'emphase était sur le chant dans la rue. Et les gens nous connaissaient comme ça. Donc, quand tu rencontrais des gens dans la rue, donc moi, je suis resté à Montréal à cette époque-là pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, on m'a demandé d'aller aider à Paris. Alors, j'ai traversé l'océan pour aller en Europe. Et en Europe, quand on faisait Sankirtan, au début, j'étais en Allemagne, mais une fois rendu en France, des fois, sur boulevard Saint-Michel à Paris, ce qui est un boulevard très connu et très, très fréquenté, c'est le quartier étudiant de Paris, ça, boulevard Saint-Michel, la Sorbonne et tout, international. Alors là, tu entendais des gens qui disaient, ah ben oui, je vous ai vu, j'ai voyagé aux États-Unis, je vous ai vu dans telle ville, et les gens nous reconnaissaient comme ça. Et à un moment donné, les dévots ont, comme dans les années 80, ont comme cessé d'être présents dans la rue à chanter comme ça. Et là, les gens, quand ils voyaient des dévots, ils disaient, ben, comment ça se fait, vous chantez plus dans la rue? Ou quand ils les revoient, ils disent, où est-ce que vous étiez passé? Et ça, c'est des commentaires que j'ai entendus des gens dans la rue. Alors, les gens nous reconnaissent pour ça. Quand les gens pensent à des dévots de Krishna, là, à part les stupidités de brainwashing, en fait, les accusations de brainwashing, c'est eux autres mêmes qui ont le cerveau lavé par ces stupidités-là, parce que c'est pas fondé. Vraiment. Ils savent pas qu'est-ce que les dévots font. Vraiment, là. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas brillantes de la part des dévots. Ça, je veux pas. Il y a des histoires qui sont pas extra non plus. Mais, en général, pour qu'est-ce que les dévots font, les gens savent pas. Ou pas plus que ça. Alors, c'est facile de critiquer ou d'avoir des préjugés, etc., etc. En tout cas. Ça, ça tombe comme l'eau sur le dos d'un canard. On doit passer notre chemin, puis ça finit là, that's it, that's all. Et alors, en ce qui nous concerne avec le Upadeshamrita, c'est très important de saisir l'essence de Upadeshamrita. Upadesh, qu'est-ce que ça veut dire, Upadeshamrita? C'est composé de deux mots. Upadesh veut dire instruction. Et Amrita veut dire le nectar. Alors, c'est le nectar des enseignements ou des instructions qui ont rapport à la pratique de la conscience de Krishna. Alors, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique les diverses sortes de bonheur. Il y a le bonheur dans la passion, le bonheur dans l'ignorance, puis le bonheur dans la vertu. Alors, le bonheur dans la vertu, c'est un bonheur qui est basé sur des principes du yoga. Le bonheur dans la passion, c'est une tentative de satisfaire des désirs très intenses. Et c'est toujours dans, disons, comment on peut dire, avec une certaine forme d'exagération dans la passion. C'est des élans que quelqu'un essaye de satisfaire. Puis c'est la passion, la passion c'est comme le feu là, c'est comme faire partir un feu de paille, ça dure un peu, puis après ça s'éteint, ça c'est la passion. Et ensuite t'as le bonheur dans l'ignorance, qui est un bonheur qui est fait d'indolence, de paresse, d'illusion, comme par exemple s'intoxiquer. Va donner un certain bonheur, soi-disant bonheur, mais c'est un bonheur dans l'ignorance. Quelqu'un c'est de la folie, le bonheur dans l'ignorance. Alors, le bonheur dans la vertu, c'est aussi, mettons, c'est mieux que les autres, mais si c'est juste pour être heureux, pour l'amour d'être heureux, ça aussi, c'est pas satisfaisant. Pourquoi? Parce que ça satisfait pas l'âme. L'âme, comment est-ce qu'elle a son bonheur ou sa satisfaction? Quelle est la condition pour que l'âme ait sa satisfaction? Je pose la question.
L'amour pour Krishna.
Oui.
L'amour.
Est-ce que l'amour pour Krishna, est-ce
c'est
que
d'être un
c'est,
peu,
pardon?
Quand on arrive à devenir un pur dévot, ça donne la réjouissance à l'âme, là,
Oui.
D'être en parfaite communion avec Krishna.
Oui, parfait. Et justement, le point, c'est que on peut vouloir aimer Krishna, ça c'est correct. C'est un côté de la médaille. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que Krishna soit satisfait avec nous, avec soi. Ça, c'est le plus important. Alors, Krishna est comparé des fois à la, disons, servir Krishna est comparable à arroser la racine de l'arbre. Si on essaie d'arroser les feuilles, les branches, les fruits séparément de la racine, ça c'est pas vraiment contribuer au bien-être de l'arbre. Par contre, si on arrose la racine, toutes les autres parties sont satisfaites. Alors, de la même façon, si on sert Krishna, on n'a pas besoin de se préoccuper si on va être heureux ou pas heureux. Pourquoi? Parce qu'en satisfaisant Krishna, on devient automatiquement satisfait. C'est la règle de base. Alors, le Upadeshamrita, c'est des instructions pour nous amener à être conscients de Krishna, mais dans la bonne direction ou dans la bonne façon, à savoir de chercher à plaire à Krishna par tous les moyens, disons, recommandables qui sont donnés dans ce petit livre qui est le Upadeshamrita. Alors, ça commence avec la maîtrise des sens. C'est une réalisation que quelqu'un doit avoir parce qu'il a la connaissance. Comment maîtriser les sens? Maîtriser les sens, la seule façon de maîtriser les sens, ça on l'a lu aussi, c'est en engageant les sens au service de Krishna. Alors, les sens, comme c'est dit ici, là, vacho vegam, manasa krodha vegam, il y a beaucoup de mots vegam. Alors, les vegam, ils ont traduit ça dans ton livre, Benoît, par sollicitation, si je ne m'abuse. Ici, dans le livre que j'ai, ils ont traduit ça par impulsion. Bon, sollicitation, je pense que c'est mieux, parce que impulsion, ça fait genre le test de laboratoire un peu sur les bords, là, tu sais. Tu mets la souris, puis tu y envoies un choc électrique. Ah! Ça a créé quelque chose. La pauvre petite souris, elle a réagi au choc électrique. Whatever. Alors, impulsion. Mais je pense sollicitation parce que c'est vraiment ça qui se passe. C'est plus pertinent. Je pense que c'est plus facile à comprendre, sollicitation. Alors, c'est comme, par exemple, on peut se trouver en présence de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Par exemple, l'exemple est donné, là, dans Teneur Reporté, qu'on se trouve devant un groupe d'amis. Et là, aussitôt, la langue va vouloir parler toutes sortes de choses, pour ne pas dire de conneries ou de stupidités, mais va vouloir tout de suite s'exprimer et parler. Alors ça, c'est une sollicitation de la parole, du verbe. Et, excusez, après on dit ici « manasa ». Manasa, krodha vegam. En fait, manasa, ça, c'est le mental. Alors, le mental, Dieu sait combien qu'il y a de sollicitations dans le mental. Si le mental n'est pas engagé dans le service positif de Krishna. Et on entend ton truc, là. Mathieu, je parle à côté. pas toi, là. Alors, ensuite, krodha vegam. Krodha veut dire la colère. Alors, les impulsions ou les sollicitations de la colère, là, ça c'est très rapide. C'est instantané quand les désirs ne sont pas satisfaits ou les attentes ne sont pas satisfaites. Et ça, un dévot, dans le début de la conscience de Krishna, il n'y a pas conscience de ces choses-là. C'est vraiment, mettons, dans le pratico-pratique qu'un dévot va devenir observateur de son propre comportement et surtout s'il réalise ou s'il a entendu qu'il faut maîtriser sa colère puis qu'il est tombé en colère, là, le dévot ne sentira pas vraiment bien. Tu sais, une fois, deux fois, trois fois, ça peut toujours passer et puis... Mais après trois fois, là, c'est genre, il faut faire de quoi pour remédier à ça. Et comme on a lu aussi aujourd'hui, pour maîtriser les sens, il n'y a aucun moyen artificiel qui va aider. Ça peut aider temporairement. Comme par exemple, Prabhupada explique que, là je m'excuse de Benoît, c'est ce à quoi je fais référence, c'est pas exactement textuel avec ce que tu as lu, parce qu'on a les versions sont un peu différentes, là. Mais par exemple, on a parlé ou on va parler dans Upadeshamrita du monisme. Le monisme des impersonnalistes. Ou en sanskrit, on appelle ça mona. M-A-U-N-A. Mona. Mona veut dire le silence. Alors, les les impersonnalistes ou les yogis sont très forts là-dessus, de prêcher les bienfaits du silence. En fait, le vide, pensez plus à rien. Pendant ce temps-là, eux autres, ils pensent à combien d'argent ils vont faire avec toi, là. Eux autres, ils pensent, mais toi, tu penses à rien, là. Pense pas qu'est-ce qu'il y a dans ton portefeuille, pense pas à ci, pense pas à ça. C'est ironique, c'est très ironique. Surtout pour des cours de yoga qui sont payants, là. C'est une vraie farce, là. Mais ça, les gens, ils savent pas. Parce qu'ils sont innocents. Ils cherchent quelque chose. Puis en fait, ils ont aucune idée de qu'est-ce qu'est la vraie chose. Le vrai yoga, ils savent pas. À moins qu'ils soient tombés sur la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, telle qu'elle est de Srila Prabhupada. Et qu'ils aient lu le 6e chapitre de Bhagavad Gita, qu'on appelle Dhyana Yoga, le yoga de la méditation, et de vraiment se renseigner c'est quoi toutes les conditions pour faire du yoga, là, ils peuvent peut-être avoir une idée. Mais comme Prabhupada dit, les gens veulent quelque chose de bon marché. Ils veulent pas quelque chose que ça prend beaucoup de temps, et de l'austérité surtout pour y arriver. Bien que dans la vie de tous les jours, ils voient qu'il n'y a rien qui est vraiment atteint gratuitement ou par chance. Alors, une des choses qu'on voit à tous les jours, qui semble banale, mais qui est quand même une forme d'austérité qui est flagrante, c'est qu'on va voir des gens qui font du jogging, par exemple. Alors, les gens font du jogging, c'est une forme d'austérité. Alors, ils vont courir. Il y a du monde que je connais, pas que je connais personnellement, mais que je vois dans mon entourage. Alors, ils courent toutes quatre saisons. Tu vois, en été, une femme en particulier que je connais, elle court en été, elle court à l'automne, toutes les saisons, elle les fait. Même en hiver, tu passes dans son quartier, tu vas la voir courir de telle heure à telle heure. Elle est habillée en conséquence. Et puis, elle fait son austérité. Pour elle, c'est important, c'est son, comment on peut dire, son mode de vie. Elle tire quelque chose. Alors, l'austérité, il y en a dans n'importe quoi. Quelqu'un qui veut devenir un grand directeur de compagnie, ben, il commence en bas de l'échelle, puis il va monter, etc. Il y a une forme d'austérité. Alors, pour devenir conscient de Krishna, il y a une forme d'austérité, et c'est ce qu'on a lu aujourd'hui. On appelle ça, en sanskrit, tapasya. Tapasya, c'est composé de deux mots, tapa et asya. Alors, tapa veut dire austérité et asya veut dire de la personne. Ça veut dire que c'est la personne qui accepte une certaine forme de souffrance volontairement pour arriver à un objectif. Ça, c'est tapasya. Alors, c'est par exemple, pour mettre et ça rentre le tapasya, c'est toutes les choses qui sont énumérées dans le premier verset de Upadeshamrita, mais d'arriver à maîtriser sa parole, son mental, ça demande tapasya. Alors, dans la teneur reportée de ce premier mantra de Upadeshamrita, il y a certaines explications. Mais si on veut avoir d'autres explications, comme c'est pertinent d'en avoir d'autres, parce que c'est bon de faire le lien, dans tel livre de Prabhupada, il parle de tapasya, puis il y a d'autres livres, pratiquement dans tous les livres de Prabhupada, la notion de tapasya revient tout le temps. Alors, là où on parle de tapasya, en particulier, et c'est comme élémentaire, c'est la Bhagavad Gita. Alors, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué l'austérité dans la vertu, dans la passion et dans l'ignorance. Alors, les détails sont là. Je sais pas, si je ne m'abuse, c'est dans le 17e ou... Attends une minute. On va laisser faire les chapitres, là, mais c'est dans la Bhagavad Gita, l'austérité. Vous pouvez faire une recherche, puis chercher, mettons, l'austérité, donc Bhagavad Gita, cherchez le mot austérité, puis vous allez tomber sur quelque chose, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, ici, on parle d'austérité de la parole et comment arriver à la maîtrise de la parole, c'est lorsqu'on engage ses paroles au service de Krishna. Alors, ça va faire plaisir à Krishna, et si ça fait plaisir à Krishna, ça fait plaisir à soi-même. C'est toujours le même principe. Mettre Krishna au centre et engager ses sens pour faire plaisir à Krishna. À ce moment-là, tout ce que l'on fait, c'est conscient de Krishna. C'est quand, un exemple qui est assez facile à comprendre, c'est la vie de temple. Qu'est-ce qui se passe au temple de Krishna? T'sais? Là, si quelqu'un pense, ben moi je sais qu'est-ce qui se passe au temple de Krishna. Il y a le président du temple, il y a les dévots, il y a la cuisine, il y a ceci ou il y a cela. Puis il y a des dévots que je connais, il y en a c'est des amis, il y en a que c'est pas plus amis qu'il faut. Si c'est ça, ce qu'une personne pense que c'est ça le temple, est-ce que vous pensez que c'est la réalité?
Non.
Alors, c'est quoi la réalité?
C'est la présence de Krishna, surtout avec la murti, là, qu'on peut observer, qu'on peut contempler, j'imagine. Puis, c'est des activités qui prient. C'est une forme de prière pour Krishna, dans le fond, un appel à Krishna. Oui.
D'accord. La réponse, elle est bien. Mais disons, on va un peu plus spécifique. Dans le sens que la vie dans le temple, on parle pas des dévots, là. Donc, on se met du point de vue des déités, des murtis. Tout est centré sur les murtis. Alors, Krishna a ses 6 offrandes par jour. Et tout disons, c'est Krishna qui est le centre. Alors, peu importe qu'est-ce qui va arriver, qu'il y ait un tremblement de terre, qu'il y ait un orage, qu'il y ait ici, qu'il y ait ça, qu'il y ait de l'électricité dans le temple, pas d'électricité dans le temple, chose qui arrive des fois. Il faut que les déités soient servies. Ça, c'est la vie de temple. Alors, il faut qu'il y ait l'arti un nombre de fois par jour. Et tout est pour le plaisir de Krishna. C'est ça, le temple. Nous, quand on est invité au temple, on est des invités, disons, par rapport à Krishna. Donc, on est dévots de Krishna, mais on est comme des invités. Mettons la fête du dimanche, là, tout le monde est un invité, disons, dans le temple de Krishna. Mais c'est encore là, c'est Krishna qui est le centre. Les gens viennent à la fête à l'arti, à la fête au temple le dimanche. Pourquoi faire? Là, c'est que tu prends 200, 300 personnes, puis il n'y a pas un chat qui parle entre eux autres. L'attention, quand c'est l'arti, là, l'attention est complètement convergée vers les déités. C'est plus le temps de dire, ah, comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? C'est fini, là. Ça, c'est en dehors de la salle du temple. Quand c'est l'arti, c'est dans le temple, c'est Krishna qui est le centre, qui est l'objet de service de tous les dévots assemblés. Alors là, il y a l'arti. L'arti est une cérémonie pour satisfaire les sens de Krishna. Alors, on offre à Krishna de l'encens, des fleurs, des flammes, un mouchoir. On baigne Krishna, symboliquement parlant, avec de l'eau. On offre des fleurs, et même des fleurs, pas n'importe quelle fleur. Ça, c'est expliqué dans le nectar de dévotion. Prabhupada écrit, on devrait pas offrir aux déités des fleurs Prabhupada dit useless. Il utilise le mot useless en anglais, qui veut dire inutile. Des fleurs inutiles qui ne sentent rien. C'est ce que Prabhupada écrit dans le nectar de dévotion. Useless flower without, en tout cas, c'est ça qui est dit en anglais, là. Ils sentent rien. Et c'est des fleurs qui ont l'apparence de fleurs, mais qui sentent pas. Et ça existe, ça, ce genre de fleurs-là. Alors, c'est une offense d'offrir des fleurs comme ça aux déités. Alors, il faut offrir aux déités. Évidemment, le président du temple va dire, ben, c'est juste ça qu'on a, OK, Prabhu? Il va dire, c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on peut acheter, et surtout dans un pays froid comme le Canada, il n'y a pas de fleurs qui poussent en hiver ici. C'est toujours des fleurs importées. Puis des fois, les bonnes fleurs qu'on voudrait offrir à Krishna, ben, ils coûtent les yeux de la tête. Alors, quand t'as pas de budget, surtout. Alors, moi, quand j'étais nouveau dévot, au temple de Montréal, on était sur l'avenue du Parc, au coin de Parc et avenue des Pins. Et souvent, disons, peut-être qu'il y avait d'autres dévots qui le faisaient aussi, mais ça arrivait assez régulièrement qu'on me demandait d'aller acheter des roses pour les déités. Et justement pour les artis, on allait acheter des roses sur l'avenue des Pins. On marchait un peu plus loin, mettons, plus dans l'est par rapport à l'avenue du Parc. Il y avait un magasin, peut-être c'est encore là aujourd'hui. Comment on dit ça en français? Un magasin qui vend des fleurs, là. Le fleuriste. Il y avait un fleuriste. Alors, on allait acheter des fleurs, des roses en particulier, des roses rouges. Rouges foncées, là. Et, mettons, on achetait 3-4 à la fois. On n'achetait pas un gros bundle, comme on dit en anglais. Et on revenait au temple. Puis ça allait être les fleurs pour les déités, pour les prochains artis. Pour offrir aux déités. Et à l'époque, quand j'ai joint, c'était les petites déités de Jagannath qu'on voit au temple aujourd'hui, qui sont encore là. Il n'y avait pas de Radha Manohar, il n'y avait pas de Gornitai, il n'y avait pas le gros Jagannath qu'on connaît aujourd'hui sur l'autel, le gros Jagannath qui fait le Ratha Yatra, là, qui fait le défilé. C'était pas là, ça, dans ce temps-là. Il y avait juste ces petites déités qui font à peu près, disons, hautes comme ça, là, je sais pas, à peu près 6, 7 pouces, 8 pouces de, à peu près, de haut. Alors, Jagannath, Subhadra, Baladev, c'était les déités qu'on avait à ce moment-là. Des déités qui ont été amenées par Srila Prabhupada et qui ont été installées pour le temple de Montréal. C'est les premières déités du temple de Montréal, ça. Les petits Jagannath, Baladev, Subhadra. Et c'était exactement l'atmosphère dans le temple. C'est les déités qui font toute la différence. C'est ça qui fait que quand tu vas au temple, les gens sentent une certaine paix dans le temple. L'atmosphère, c'est Vaikuntha. Parce que, justement, c'est les déités qui sont là. Et l'atmosphère est paisible. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le monde spirituel. Quand j'ai joint sur Park Avenue, c'était au troisième étage. Il fallait monter les escaliers. Puis là, quand tu arrivais juste à l'entrée même du temple, les dévots avaient écrit sur le mur. Pourquoi ils ont écrit ça? Je ne sais pas, mais tu sais, genre, t'écris rien sur les murs, le mur d'un édifice, surtout qui est loué, qui n'est pas à toi. Mais ils avaient écrit en anglais, pas en français, mais en anglais, Welcome to the spiritual sky. Alors, moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me disais, ben, je connais pas ça, moi, le spiritual sky. J'aimerais ça connaître ça. Donc, ça a pris un certain temps avant que tu deviennes familier, puis. Donc, les dévots ont expliqué, tu sais, quand t'es nouveau, là, dans la place, là, ça vient par ça vient au cours de certaines conversations. Alors, si t'es chanceux, puis si tu poses des questions, puis ça, c'est correct, là. T'as pas intérêt à ne pas poser de questions. Vaut mieux que si t'as des questions, prends-les en note ou garde-les en mémoire et pose tes questions pour avoir la connaissance, pour répondre à tes questions. Ça, c'est tout à fait normal et recommandable que ça se passe comme ça. Puis moi, ben, c'est ça qui se passait. Moi, j'avais des questions, puis à chaque fois que le dévot qui s'occupait de moi, qui s'appelle Vishwambar, il me recevait, puis c'est avec lui que je voulais parler, c'était mon contact, et puis à chaque fois, il me posait la question, « As-tu des questions? » Puis là, ben j'avais des questions que de fois en fois, à chaque visite, je savais que si j'ai des questions, je vais pouvoir poser mes questions, puis je vais avoir des réponses. Puis c'était pas en dessous de ça. Il n'y a jamais eu, je pense, de questions qu'il n'était pas capable de me donner des réponses. Alors, je trouvais ça bien fun de parler avec lui et d'avoir des éclaircissements, des réponses par rapport à la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ça veut dire que, mettons, quelqu'un comme moi qui voudrait aller au temple, là, on pourrait être parrainé comme par un dévot du temple pour avoir un peu d'explication puis de savoir comment fonctionner dans le temple. Puis...
Est-ce que tu veux dire aller rester au temple ou juste visiter?
Non, juste visiter.
Visiter, ben.
Visiter ou participer à certaines activités.
Ben, à ce moment-là, je te dirais, premièrement, faut connaître des dévots dans place. Puis le dévot qui est là tout le temps, il s'appelle, ben, comme moi, celui-là que je vois, parce que je vais pas souvent au temple, hein, je connais pas tout le monde, tu sais, ça rentre, ça sort dans le temple, là, tu sais. C'est le moulin à vent, là. Donc, je te dirais, ça, c'est mon expérience, OK? Personnelle, dans le sens que c'est pas pour critiquer le temple du tout, du tout, du tout. C'est pas ça, là. Je continue ma pensée. C'est que moi, je trouve que géographiquement parlant, les temples, ce qui se passe dans la géographie pratico-pratique, ça, c'est mon observation. C'est ça qui va se passer dans le temple aussi. Dans le sens que moi, ce que j'ai vu au Temple de Montréal, il y a eu, avec les années, il y a eu plein de dévots qui ont passé par le Temple de Montréal, mais qui sont allés ailleurs dans le monde et qui sont devenus de très bons dévots et qui ont fait de très bons services pour le mouvement, mais qui sont passés par Montréal. Et quand j'étais à Paris, c'était la même chose. Paris, comme géographiquement parlant, c'est une plaque tournante, Paris. Que les gens viennent, puis après, ils s'en vont ailleurs. Et le temple, c'était pareil comme ça. Il y a beaucoup de dévots qui venaient au temple de Pali, des dévots d'Angleterre, des dévots d'Allemagne, des dévots de Suisse. Puis, où ils venaient, ils devenaient dévots à Paris. Puis après, ils s'en allaient dans, soit fonder d'autres temples ou participer dans d'autres temples. Mais ils restaient pas nécessairement au temple de Paris. Et je trouve qu'à Montréal, c'est la même chose. Il y a des dévots qui viennent, deviennent dévots. Ils vont rester, pas rester? Je ne sais pas. Mais c'est comme, par exemple, si tu dis, quelqu'un dit, mettons, en Gaspésie, il pose la question, j'aimerais ça devenir un dévot. Ben là, tu vas lui dire, toi, tu es un temple de Montréal, naturellement, tu vas lui dire, ben, si tu veux être un dévot puis apprendre à être un dévot, ben, il n'y a pas de temple en Gaspésie. Viens rester au temple de Montréal pour un certain temps, puis après, tu pourras, si tu veux, retourner en Gaspésie ou aller ailleurs, ou même aller dans un autre temple. Ça dépend, comme à Montréal, il y a des dévots ou des dévotes. Ils deviennent dévots ici à Montréal pour un bout, puis après, ils s'en vont à Toronto. Ils vont rester à Toronto ou ils vont aller dans un autre temple. Comme là, maintenant, ils ont établi, je pense, un temple dans les Maritimes. Avant, il n'y avait pas de temple dans les Maritimes. Je pense que c'est Halifax maintenant. Et maintenant, c'est Québec, là. Ils sont en train de mettre ça sur pied. Dans la ville de Québec, il y a une dévote qui s'occupe de ça. Elle et son mari. Puis très sérieux, puis ils ont à peu près une vingtaine de personnes très intéressées par la conscience de Krishna à Québec. Alors là, tu vas voir, avec le temps, tu vas avoir du monde de Québec qui viennent à Montréal pour un bout, s'en retournent à Québec. Puis c'est comme ça. C'est ce qui se passe géographiquement parlant. Moi, c'est mon observation. C'est que ça se passe, tu sais, ça se transpose dans les temples. Le va-et-vient de ville, de certaines villes à certaines villes, ça marche aussi. Ça a lieu aussi à travers les temples. Donc, quand moi j'ai joint, puis on m'a demandé d'aller aider en Europe, ben la première place que j'ai été dans cette... comment on peut dire, dans ce changement de cap, c'était d'aller au temple de New York. Et là, de New York, j'ai rencontré un autre dévot, puis on est parti ensemble pour l'Europe. C'est l'arrangement. Quitter Montréal, New York, Londres, ou New York, Amsterdam. Puis Amsterdam, ça a tourné comme ça. Je suis allé à Hambourg. Puis Hambourg, ben c'était les autres villes qui s'ouvraient à ce moment-là en Allemagne. Il y a eu Berlin, ensuite il y a eu Munich. Après Munich, c'était Paris pour moi. Et c'était mon trajet. Mais le mouvement de ISKCON, c'est international. Alors, il y a un côté de voyagement qui est intéressant, surtout quand t'es libre comme l'air, que tu es célibataire, alors t'as pas d'attache familiale qui te retienne. Alors tu peux, si ça te tente, aller d'une place à une autre. Mais en général, c'est mieux que ce soit un temple sous la supervision de ISKCON. Il y a une raison de service. Tu sais, le ISKCON, c'est pas une... C'est pas une organisation de tourisme. Il y en a des dévots qui font ça. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, ça existe. Les autres, ils veulent visiter. Ils veulent faire le tour du monde pour aller visiter des temples, un temple après l'autre, avec don. Ça, on a déjà vu ça, mais il y en a pas beaucoup de ce genre de dévots-là. Mais après, quand tu poses la question, bien, quel service tu fais, toi, Prabhu? Ben moi j'aime ça voyager. Ben oui, c'est beau là. Mais tu fais pas grand service, je m'excuse là. Tu sais, c'est beau regarder là. Mais il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement de Sankirtan, du Seigneur Chaitanya. Tu peux voyager dans ce mouvement-là, aller prêcher, mais pas faire du tourisme, là, du sightseeing, comme on dit en anglais, là. Tu sais, c'est juste regarder à gauche puis à droite, là, ça donne quoi, ça? Tu sais, mais en tout cas, il y en a qui aiment ça. Au mieux aller visiter des temples qu'aller visiter d'autres choses, là. Mais l'idée, c'est que si on veut contrôler les sens, on revient sur le tapis, sur le sujet. C'est en sachant engager ses sens au service de Krishna. Et ça, c'est l'objectif de l'Upadeshamrita. Comment contrôler sa parole, pas en parlant de n'importe quoi, mais en parlant de Krishna. Contrôler son mental, lorsque le mental est absorbé dans le service de Krishna. Contrôler la colère. Ben, premièrement, si tu dois savoir qu'est-ce qui engendre la colère. Ça, c'est décrit dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 2, verset 62. Krishna dit, en contemplant les objets des sens, on développe de l'attachement. Et lorsque l'attachement est frustré, on va développer de la colère. Et lorsque la colère est développée, l'illusion. Et lorsque l'illusion est là, l'intelligence se perd et on retombe encore une fois au niveau matériel. Alors, on s'est fait avoir. C'est le processus que la Bhagavad Gita décrit. Et la colère, c'est dit par Prabhupada, la colère détruit tout. Alors, des fois, si on se fâche, par exemple, après un ami, pour une raison, pour une autre, ben cette colère-là peut avoir mis en l'air une amitié qui avait duré jusqu'à ce temps-là. Pour l'amour de quoi? Une colère. Monsieur ou madame s'est permis de dire des mots blessants, par exemple, puis après, ben c'est fini. La relation va être difficile à rafistoler, comme on dit. Et ça, c'est la colère. Ensuite, la semaine prochaine, justement, on parlera des autres sollicitations qu'on dit Jiva Vegam, Udaro Pasta Vegam. Ça, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ça va venir, là. Jiva, ça veut dire la langue. Et Udara veut dire l'estomac. Udara, upasta, les organes génitaux. Ça aussi, c'est, il y a des sollicitations ou des impulsions. Et ça sera discuté, dans la prochaine fois. Alors voilà. C'est ça pour aujourd'hui. Et, ben, on espère vous revoir la semaine prochaine.
Certainement. Certainement.
Ça fait plaisir. Au moins, j'aurai quelqu'un à qui parler. Et Réjean aussi. Merci beaucoup d'être venu, Réjean.
Allez voir la Prabhupada.
Prabhava. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Même heure, même poste.
Oui.
Mercredi à 19h.
Oui.
Merci beaucoup.
Hare Krishna.
Allez, bon. Jai. Merci. Alors, c'est ça, comment ça marche? Oh, stop.